Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, Diane de Margerie.
Bonsoir.
Je suis particulièrement heureux de vous accueillir à Bordeaux, puisque c'est la première fois que nous nous rencontrons, même si ce n'est pas la première fois que j'entends parler de vous. Et nous sommes là pour... je vous lis. Et nous sommes là... Alors, il faut tout de suite dire que nous sommes là dans une situation terrible. D'ailleurs, d'abord, nous avons commencé à discuter dans la... dans la chapelle
à
côté, là, et adjacente. Et déjà, nous ne sommes plus pas tout à fait d'accord. Enfin, vous m'avez dit, oui, mais tout ça est dans les textes.
Ah,
on va y revenir.
Bon.
Et ça, ce n'est pas le plus grave. Le plus grave est que vous reprenez un train et que vous avez un taxi qui arrive à 7h15. Qui me paraît absolument inhumain comme traitement.
Oui, je trouve aussi, j'aurais dû dormir à l'hôtel.
Oui, c'était préférable. On va essayer de ne pas dépasser cet horaire qui nous est imposé et de dire malgré tout des choses intéressantes. Première question... Proust, bon, c'est pas une découverte que vous faites aujourd'hui. Je crois qu'il vous accompagne depuis un certain nombre d'années. Vous avez déjà publié des ouvrages consacrés à Proust. Comment avez-vous découvert Proust et qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à certains aspects particuliers de l'œuvre proustienne, qu'on retrouve, le contenu des ouvrages précédents se retrouve en partie,
oui,
d'ailleurs, dans ce...
Il y a des
racontez-nous
allusions.
L'histoire de ce livre.
Oui, d'accord. Voilà. Alors, bon, d'abord, j'ai commencé à lire Proust quand j'avais 14 ans, et ça se passait, c'est curieux, mais ça se passait à Pékin, pendant l'occupation japonaise. Et ensuite, j'ai continué à lire Proust à Rome, et ensuite à Paris. Enfin, tout ça, c'est sur des années. Et donc, tout ça, c'est pour vous dire simplement que Proust m'accompagne depuis très, très longtemps, que j'y ai trouvé tout de suite quelque chose qui me plaisait intensément, que j'avais déjà trouvé dans Baudelaire, c'est-à-dire que dans une même phrase, vous avez les couleurs, les sons, le lieu, ce qu'on dit. Enfin, c'est un microcosme que chaque phrase et que cette phrase est musicale. Donc, pendant longtemps, la musicalité de cette phrase sublime m'a un petit peu caché le côté obscur qui, au fur et à mesure de mes relectures, m'est apparu assez fort, finalement, plus fort qu'on ne le dit d'habitude. Et c'est un livre un petit peu contre les clichés des premières lectures, si vous voulez, l'amour facile et merveilleux, symbiotique avec la mère, le fait qu'il était mondain, bavard et snob, ce qui est tout simplement, pour lui, c'était une idée de liberté. Il voulait connaître des gens plus libres, peut-être, que dans son propre milieu. Et puis aussi, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est que tous les personnages se mentent les uns aux autres. Et ce qui m'a finalement frappée, c'est que je me demande si Proust lui-même savait à quel point ce qu'il disait était noir. Voilà. Donc, pourquoi j'ai appelé ce livre Proust et l'obscur.
Proust et l'obscur. Alors, on pourrait revenir sur différents points de ce que vous venez de dire, et en particulier sur peut-être quelque chose que vous n'avez pas dit justement. C'est-à-dire que dans cet essai, vous vous appuyez essentiellement pour mettre en évidence ce côté obscur et assez terrible de l'œuvre de Proust, dont on ne saura pas s'il en avait conscience ou pas, n'est-ce pas ? Vous vous appuyez essentiellement sur les ouvrages qui précèdent la recherche du temps perdu, qui qui la préfigure, qui, et dont on retrouve ensuite, bien sûr, sous des transpositions diverses, les principaux éléments dans la recherche du temps perdu. Et alors, ces ouvrages sont en général un peu négligés par les spécialistes de Proust. Bien sûr, les spécialistes de Proust, il y en a des centaines, il y a des rayons entiers de bibliothèques à faire avec les ouvrages sur Proust. On s'est intéressé à Jean Santeuil, on s'est intéressé aux plaisirs et les jours, on s'est intéressé aux sentiments filiaux d'un parricide
qui est la tête passionnant.
Et nous allons nous parler. Mais vous avez choisi d'axer votre recherche sur ces ouvrages, sur Proust avant Proust.
Oui, mais justement, c'est parce que je me passionne pour l'enfance des auteurs, pour leurs premiers livres. J'ai la même étude, je l'ai faite sur Edith Wharton, sur George Sand. En fait, avant 25 ans, Proust avait écrit « Les plaisirs et les jours », il avait commencé « Jean Santeuil », qui est à mon avis un chef-d'œuvre, fait de fragments magnifiques qui vont se retrouver dans la recherche. Mais ce que je veux vous dire, c'est que « Jean Santeuil » et « Les plaisirs et les jours », il y a déjà absolument tous les thèmes les plus violents, la mort, la peur de la mort, le suicide, la jalousie destructrice, il y a déjà tous ces thèmes-là. Et dans Jean Santeuil, si vous voulez, il y a la même enfance que dans Combray, ça se passe à Illié dans Jean Santeuil, c'est beaucoup plus réaliste. C'est une sorte d'autobiographie, mini-autobiographie, avec des fragments qui se juxtaposent, mais qu'il n'a jamais publié du vivant de ses parents. Car il faut bien dire que la recherche est commencée après la mort de sa mère. Alors justement, moi j'ai écrit ce livre un petit peu contre les clichés qu'on avait dans les premières lectures, comme je vous disais, à savoir une enfance merveilleuse, heureuse, à la campagne, etc., alors que la maison d'Illié est complètement imaginaire. Elle se trouve à Auteuil.
C'est le mariage de deux maisons.
De deux maisons, ouais. C'est ça. Mais oui, enfin, dans la deuxième maison, celle d'Illié, il y est allé six fois. Hein, faut pas exagérer. Pendant les petites vacances, quand il faisait bien froid, en Beauce. C'est le côté beauceron de la famille. Parce que son père Adrien était beauceron. Mmh. Voilà. Donc, ce qui m'a intéressé dans cette dernière relecture, c'est la violence de Jean Santeuil qui est complètement transcendée par la suite dans la recherche à cause de l'expérience phénoménale du deuil et du remords, sans doute. Du remords, on ne sait pas vraiment pourquoi. Mais je dirais que Proust est né coupable. Vous ne trouvez pas ? Enfin, si je puis me permettre de vous poser une question. Je ne sais pas.
Il faudrait savoir coupable de quoi.
Mais justement, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors, il a été engendré pendant la Commune. Oui. Peut-être que sa mère a été très perturbée par les scènes violentes de rue. Moi, je crois
vous dites cela à la vie utérine.
Mais je pense à l'importance de la vie utérine. Je pense qu'elle existe. Bon, enfin donc, j'ai voulu, si vous voulez, faire une sorte de comparaison entre tous les textes. J'aime pas ce mot très universitaire d'intertextuel, mais enfin c'est bien ça, c'est de réunir tous les textes de la jeunesse avec ceux de l'achèvement.
Alors ce qui est étonnant, c'est que Jean Santeuil, vous dites, c'est une mini autobiographie.
Oui.
D'abord c'est précisément écrit à la troisième personne.
Oui, ça permet beaucoup de choses.
Et la recherche à la première.
Oui.
Bon. Et ensuite, il s'arrête dans Jean Santeuil.
Oui.
Pourquoi s'arrête-t-il ? Et on a dit, et certains spécialistes de Proust ont dit que c'était le passage du « il » au « je » qui lui avait permis d'écrire la recherche.
Non, mais je dirais que le « il », comme nous savons tous ceux qui écrivent, que le « il » permet de dire des choses que le « je » ne permet pas. Et donc, si vous voulez, dans le « il » de Jean Santeuil, c'est un petit garçon extrêmement révolté contre son éducation, qui a des pensées lourdes, des pensées violentes, qui, je le dis carrément, voudrait battre son père, qui l'exaspère, qui se trouve extrêmement coupé de ses amitiés par sa mère abusive. Donc, dans Jean Santeuil, avec le « il », des choses sont dites qui sont suggérées ou gommées dans la recherche.
Alors, il y a donc dans Jean Santeuil qui sont suggérées, gommées ou sublimées, comme vous
oui,
dites.
Oui, sublimées, voilà. Sublimées.
Il y a donc dans Jean Santeuil une violence qui s'estomperait, en tout cas dans la recherche, et en particulier une violence dans la relation avec les parents.
Oui, tout à fait.
Et en particulier avec la mère.
Oui, tout
Alors,
à fait.
Dans La recherche du temps perdu, la mère, même si la figure de la mère et la figure de la grand-mère finissent par se confondre, l'épisode du baiser maternel est essentiel, très connu, bon, aussi connu que les petites madeleines. Et vous dites que ce n'est pas tout à fait ça, la relation avec
non.
la mère.
Non, alors je ne vais pas retrouver la citation, mais je vais vous dire en fait... l'histoire du baiser de la mère, la fameuse soirée où le petit enfant obtient que sa mère dorme dans sa chambre parce que le père dit « Oh, vous êtes trop nerveux, faites ce que vous voulez, etc. » Le père s'éloigne de la situation. Eh bien, dans ce paragraphe où tout le monde a vu le triomphe de l'enfant près de sa maman, etc., il y a quand même une phrase très révélatrice, mais je ne sais comment elle est comme ça posée de côté, on ne s'en rend pas compte de son importance énorme. Il dit au fond, j'étais malheureux que ma mère soit là, j'avais envie de lui dire non, ne couche pas ici. Je trouve que c'est très important parce que la scène prend tout à fait une autre vision d'un petit garçon qui se sent finalement un petit peu mis à l'écart par son père qui trouve que c'est un enfant trop nerveux pour qu'il s'en occupe et englobé. On dirait en anglais « engulfed », enfin « enrobé par sa mère ». Et je pense que c'est une remarque qui est très proustienne dans le sens que souvent, dans ces phrases magnifiques, il glisse une petite chose assez horrifique.
Il y a cela, et il y a aussi autre chose, c'est que, alors là... On rejoint ce que vous soulignez tout à l'heure, c'est-à-dire le thème de la culpabilité. Il a remporté une victoire contre
oui.
son père.
Il se rend compte que cette victoire est par indifférence du père. Et donc, ce n'est pas une victoire, finalement. C'est simplement que le monde viril le laisse tomber pour le donner au monde maternel. Voilà ce que c'est, en fait, cette scène. Et ça, c'est important.
Est-ce que cette scène a, comme vous le suggérez, des connotations incestueuses ?
Eh bien, elle est entourée par des connotations incestueuses voulues par Proust. Mais ça, je ne sais pas si c'est littéraire ou si ça a comme ça une base mentale réelle. C'est-à-dire que la mère lit George Sand à son petit enfant, et qui est justement un roman incestueux. François de Champy. Et il faut savoir que dans la vie réelle de Proust, sa mère lui lisait George Sand, justement, mais en coupant les scènes d'amour, exactement comme ma mère me laissait lire Jean Giono, en mettant des agrafes pour pas que je lise les scènes un peu violentes. Et donc, au fond, il ne comprenait rien. Et donc, il y avait un mystère érotico, vous voyez ce que je veux dire, oh, oui, maternello.
Alors, il y a des relations violentes avec les parents. Il va jusqu'à souhaiter leur mort. Et enfin, oui. En tout cas, et puis il est effaré de leur vieillissement. Il déteste le.
Dans Jean Santeuil, dans Jean Santeuil, il y a toute une partie qui s'appelle Monsieur et Madame Santeuil vieillissent. Enfin, c'est pas une bande dessinée, mais presque. On les voit qui commencent à perdre l'autorité qu'ils avaient. Donc, c'est une pour lui ce qui l'énerve, cet enfant, c'est la perte d'autorité. Ce qui prouve qu'au fond, à mon avis, au centre de cette œuvre, il y a la perte d'autorité du père qui est assez importante et qui a été, donc le relais a été pris par la mère, c'est ce qui se passe dans Jean Santeuil, quand le petit enfant tape à la porte de sa mère, elle croit que c'est son mari, etc., une substitution du père par le fils, et Proust est le magicien de ces substitutions de personnages.
Ça, bien sûr, c'est le magicien des glissements, des travestissements, substitutions de personnages.
Par exemple, dans la recherche, la mort de la grand-mère, c'est au fond la mort de la mère. Mais la grand-mère est une mère idéalisée, merveilleuse, qui adore son petit-fils, qui le comprend, enfin, qui n'exerce pas sur lui un pouvoir frustrant. Voilà.
Je voudrais qu'on revienne un peu plus tard à la grand-mère, parce que c'est un personnage essentiel de la recherche. Et toutes les scènes avec la grand-mère sont des scènes qui échappent à l'obscur, justement, me semble-t-il.
C'est vrai.
Mais avant... puisque vous parliez de ces personnages qui changent, etc., il y a un personnage qui est essentiel dans la première partie de la recherche du temps perdu, à Combray, c'est la tante Léonie.
Ah, bien sûr.
Alors, ce personnage de la tante Léonie, là, vous montrez comment c'est un personnage très, très fabriqué.
Comment fabriqué?
Ah, ben, je veux dire qu'il n'est pas.
Non,
il est littéraire.
Ah bon, enfin. Ouais. C'est un personnage, comme il en existe beaucoup, c'est-à-dire c'est une femme qui adore savoir ce qui se passe dans le village, qui adore tout savoir sur les gens autour d'elle. Ça me paraît pas fabriqué, ça, c'est vraiment vrai.
Je veux dire fabriqué littérairement.
Ah.
Composé de divers... Mais,
Oui.
Comme tous les personnages de la recherche, d'ailleurs.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais justement, je pense que Léonie, c'est Proust, tout simplement. Voilà, parce que Proust, il est toujours à la fenêtre, il est toujours en train d'écouter, de regarder ce qui se passe, de savoir les intrigues, de se passionner pour les amours des autres, c'est un voyeur. Donc Léonie, je pense que c'est Proust, voilà ce que je pense. Et ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est qu'au fond, Léonie a une vie comme ça, finalement, d'une jalousie folle, parce qu'elle n'aime pas que la fille de cuisine parle avec la cuisinière, enfin... Elle est vraiment proustienne. Et j'ai toujours pensé que Léonie était une sorte de projection de ce que Proust n'aimait pas en lui-même, c'est-à-dire l'impossibilité d'aimer, la curiosité, le bavardage, le monde social, parce que il y a un monde social là, il y est, et je pense que c'est sa projection pour s'en débarrasser.
Et alors, il s'en débarrasse tellement que quand la mort de la tante Léonie est est traitée par Soulagent.
Elle est très escamotée et son neveu ne s'intéresse pas du tout à sa mort. Et quant à elle, parmi tous les gens qui, dans la recherche ou dans Jean Santeuil, rêvent à la mort des autres, un des rêves de Tante Léonie, c'est que toute sa famille meure et qu'elle mène le deuil. Mais c'est vrai.
Voilà. C'est un
rêve. Je veux dire, c'est
vrai. Un rêve qu'on peut faire. Tout, moi, je...
Bon, alors il y a beaucoup d'autres rêves meurtriers dans la recherche. D'ailleurs, j'ai axé un petit peu à des chapitres sur la passion que Proust avait. Enfin, je pense qu'il aurait fait maintenant un merveilleux journaliste des faits divers, hein, parce que. Par exemple, Charlus rêve de tuer son ami Morel. Swann, à un moment donné, veut crever les yeux d'Odette. Enfin, c'est quand même effrayant dans un rêve, évidemment. Et tout se passe comme ça dans des cauchemars, dans des rêves. C'est un inconscient très sombre.
Alors, vous avez prononcé le mot jalousie à propos de Tante Léonie, et c'est un des thèmes essentiels de la recherche. On est toujours qu'on y revienne, mais là, puisque vous parlez de crime dans les rêves, il y a un texte qui est absolument étonnant et qui vous intéresse beaucoup. C'est ce texte qu'il a écrit pour Le Figaro. Et qui s'appelle Sentiments filiaux d'un parricide. On peut dire un mot de ce texte-là.
Ah oui, parce que là, c'est vrai que après la mort de sa mère, Proust a été extrêmement intéressé par l'assassinat d'une femme. Il se trouve que cette femme était une amie de Madame Proust. Et que le jeune fils qui a tué sa mère était quelqu'un qui avait correspondu avec Marcel Proust. Il se trouve que ce garçon venait de perdre son père 2 ans à peu près auparavant et que la mort du père l'avait énormément perturbé et que donc il avait vécu en tête-à-tête avec sa mère. Et ça rejoint tout à fait autre chose qui est le tête-à-tête de Gustave Moreau, le peintre, avec sa mère après la mort du père. Il y a là un faisceau de situations qui se rejoignent dans cet article, qui d'ailleurs a beaucoup choqué les lecteurs du Figaro, parce que Marcel Proust parlait en son nom et disait que ce parricide, loin d'être un assassin criminel, était un fils merveilleux, etc. Donc il y a comme une sorte de justification du fils assassin qui donc, comme je vous dis, a beaucoup choqué les gens. Et même, on lui a coupé son article. Et quand on a retrouvé les phrases coupées, on a vu qu'au fond, il parlait de tous les personnages de l'Antiquité qui ont commis des crimes. Et je dois dire que ce texte est un peu bouleversant parce que en fait, c'est un mélange de culpabilité et de frustration. De culpabilité, on ne sait pas de quoi, du mal qu'il aurait fait moral à sa mère, ou alors des sentiments ambivalents qu'il avait. Vous voyez, je ne sais pas. C'est vraiment un texte, le premier qu'il publie, donc, après la mort.
Et de culpabilité, sans doute, mais aussi de tentatives pour effacer cette culpabilité, puisqu'au fond, le sens de l'article, « Sentiments filiaux d'un parricide », c'est « Il a tué sa mère par amour », quoi.
Absolument. Ouais. Il l'aimait trop. Voilà. Et en fait, Voilà ce qu'il écrit. Ce pauvre parricide n'était pas une brute criminelle, mais un noble exemplaire d'humanité, un homme d'esprit éclairé, un fils tendre et pieux. Alors évidemment, ça a un petit peu étonné les gens, mais en fait, je pense que ce qu'il voulait atteindre, Marcel Proust en écrivant cet article, c'est les dangers de la symbiose amoureuse qu'il a peut-être vécu avec sa mère, mais je ne sais pas si elle était voulue par lui. Je pense qu'elle était plutôt voulue par la mère. Voilà ma conclusion après toutes ces lectures et en mettant les textes ensemble.
Pour ce qui concerne la mère, vous suggérez que une des raisons qu'il aurait d'en vouloir à sa mère, c'est que quand même la mère l'a détourné de l'écriture en l'orientant vers la traduction, Ruskin et tout ça.
Absolument, mais la mère l'a détourné de tout. Elle l'a détourné des petites filles qui n'avaient pas le droit de voir aux Champs-Élysées, des petits garçons qui n'avaient pas le droit de voir dans Jean Santeuil au château de Réveillon. De l'écriture personnelle en lui demandant de traduire indéfiniment Ruskin. Et donc, c'est un personnage, c'est extrêmement intéressant de juger ce rapport. Voilà, c'est une des choses que j'ai voulu faire dans ce livre.
Alors, le thème de la jalousie, évidemment, là encore, des rayons bibliothèques qui sont emplis d'ouvrages analysant la jalousie chez Proust. Et je ne sais pas si on a, jusqu'à présent, mis en lumière quelque chose que vous soulignez, qui est le rôle, peut-être, dans l'apparition, dans la naissance de la jalousie chez Proust, alors chez l'homme, Proust, hein, l'arrivée du frère Robert, qui sera médecin comme Adrien
comme
Proust,
le père.
Comme le père. Et là, vous avez trouvé des passages, en effet, notamment dans Jean Santeuil, assez éloquents.
C'est-à-dire, ce qui est extraordinaire, c'est que dans toute cette œuvre, il n'y a pas de frère. C'est toujours un fils unique qui apparaît dans les histoires. Jean Santeuil est fils unique, le petit garçon de la recherche, évidemment, le narrateur est fils unique, etc. Or, si on pense que toute cette enfance, qu'elle soit revue dans Jean Santeuil à Illier ou dans La recherche à Combray, que toute cette enfance, il y a énormément de choses vraies, de choses vraiment relatées qui ont existé, mais que le frère en est complètement absent, c'est quand même une chose étrange. Je veux dire que le frère est né donc deux ans après. Je pense que c'est, au fond, franchement, je trouve ça banal de dire que... banal, et pourtant ça n'a pas été dit, que le premier enfant se sent toujours, pendant un certain temps, détrôné par le second, et le second par le troisième. Il paraît que ce qu'il y a de plus difficile, c'est d'être au milieu. Oui, enfin. Alors, donc, ça m'a beaucoup frappée, si vous voulez, parce que, par exemple, Proust lui-même, en écrivant une lettre, je crois que c'est à Edmond Jaloux, se souvient d'une scène que celui-ci a écrite dans un roman, où le frère aîné, l'aîné en tout cas, fait mourir le cadet par des sévices mentaux, etc. Bon, enfin, je trouve qu'il y a là quelque chose qui n'a jamais été dit par Proust dans La recherche, puisqu'il n'y a pas d'autres petits garçons. Il n'y a pas d'autres enfants.
Et qu'il n'a pas été tellement, semble-t-il, enfin, je ne connais pas l'ensemble de la critique proustienne, mais qu'il n'a pas été tellement souligné. Vous rapprochez d'ailleurs cette rivalité de celle qui existait entre Henry James, le romancier,
fait.
Et William James, le c'est philosophe,
ça.
Son frère, célèbre ici. Mais vous dites que James n'a jamais supporté la notoriété de son frère.
Absolument. Il écrivait que celui-ci lui avait laissé les miettes de la vie. Et ils s'entendaient très mal, tous les deux. Et ce qui n'est pas du tout le cas des frères Proust dans la réalité. Ce qui fait que c'est d'autant plus étonnant qu'il n'y ait jamais de frères dans l'œuvre. Car les frères Proust, le frère Robert Proust a été absolument magnifique pour Marcel. Il a organisé son enterrement, il s'est occupé de ses œuvres après sa mort, etc. Et c'est d'autant plus étrange que le sentiment fraternel n'existe pas dans cette œuvre. Mais d'ailleurs, l'amour, l'amour existe peu, parce que l'amour est quelque chose qui terrifie le narrateur. Quelque part, Proust écrit « On n'aime plus rien lorsqu'on aime », d'un air de dire que l'amour est une chose tellement importante qu'elle se substitue à l'imaginaire, aux tissus, aux odeurs, aux couleurs, à la vision, à la peinture, etc. Et j'ai remarqué qu'un des seuls personnages heureux de la recherche, c'est le peintre Elstir. Et Elstir s'entend très bien avec sa femme, ce qui est un vrai miracle dans cette œuvre. Et Elstir, en plus, représente toutes les étapes de la peinture. Ça peut aller de Gustave Moroz, impressionniste. Et c'est important parce que pour Proust, un être n'existe pas à un moment donné, mais à travers toutes ces étapes. Et non seulement à travers toutes ces étapes, mais toutes ces étapes continuent à exister en lui. C'est pourquoi Elstir est un des personnages les plus importants de la recherche.
Alors, juste un mot d'abord pour dire que quand même ce qui est cocasse dans la vie, c'est que William James est totalement oublié aujourd'hui et que Henry James est un des écrivains les plus importants du siècle dernier ou du 19e siècle.
Oui, mais c'est...
Et qu'on l'a souvent rapproché de Proust. On l'a donné comme un des ancêtres. On l'a présenté comme un des ancêtres.
Oui, mais alors deux choses. D'abord, je trouve que Proust est beaucoup plus sensuel que Henry James. Et ensuite, nous disons que William James a disparu de la circulation parce que nous sommes des littéraires.
Oui, c'est vrai.
Mais en fait, non, parce qu'il a fait des traités très importants sur les amputés, sur la douleur qui subsiste lorsqu'on a été amputé. Il a fait des choses absolument remarquables et que beaucoup de gens lisent. Mais nous, évidemment, on est déjà tellement pris par les milliers de pages de Henrik.
Alors... Donc, vous parlez d'Elstir. Elstir, on a souvent dit que c'était plus ou moins Monet, n'est-ce pas,
c'est ça? Oui, un peu Monet, un peu Moreau.
Alors, vous êtes intéressé déjà, d'ailleurs,
à
Gustave Moreau. Oui. Et là, vous consacrez des pages à Proust et Gustave Moreau. Vous pouvez nous parler un peu de...
Oui, alors, ce qui est très intéressant, c'est que... La maison-musée, comme on l'appelle, de Moreau, dans le 9e à Paris.
Merveilleuse.
C'est extraordinaire. Il y a des tableaux sur plusieurs étages, comme ça on monte dans un escalier mystérieux, comme l'escalier d'ailleurs d'Hillier, où le petit enfant devait rejoindre sa mère. Et en fait, il y a des points communs extraordinaires entre ces deux êtres. Pas d'abord, mais quand même aussi, le crime. Étant donné que tout le monde sait combien Salomé, Judith, ce sont des femmes meurtrières. Et tous ces tableaux ont fortement impressionné Proust, qui a écrit sur Moreau un des plus beaux textes qui existent, qui est dans Contre-Sainte-Beuve, où il y a des textes inouïs sur Baudelaire. D'ailleurs, c'est en poche, hein, Contre-Sainte-Beuve.
Oui.
Et donc, on peut le trouver facilement, ce qui n'était pas le cas à mon époque, quand j'ai commencé à lire Contre Sainte-Beuve. Et donc, Moreau est un homme qui écrivait, c'est assez extraordinaire, qui écrivait à sa mère, qui était sourde, et lui écrivait des petites lettres pour lui expliquer ses tableaux. Alors, par exemple, je trouve que cette phrase est très proustienne. C'est Gustave Moreau qui écrit à sa mère pour se faire pardonner d'avoir peint Salomé tellement de fois. Alors, il écrit « Si tu cherchais un peu à entrer dans cette façon mystérieuse et symbolique et tout à fait intime de rendre les choses qui est le propre de mon talent unique en ce genre, tu jouirais vraiment de ces sujets rendus de cette façon. » Donc, il essaye de s'expliquer à sa mère et on peut dire que le Contre Sainte-Beuve, qui commence par une conversation avec maman, comme ça s'appelle, où il explique Baudelaire à sa mère, et il y a donc d'énormes points communs entre ces deux êtres. Voilà, ça m'a beaucoup frappée.
Alors, chez Baudelaire, il y a notamment un thème qui le fascine. Il admire Baudelaire, il adore Baudelaire. Oui. Comme un... Mais il est particulièrement fasciné par les femmes damnées.
Oui.
Les femmes damnées, c'est-à-dire lesbos.
Il faut bien dire que dans la recherche, ce qui est très étrange... toutes les femmes s'intéressent aux femmes. Enfin, bien sûr, Albertine, André, etc. Et même Madame Verdurin, qui s'appelle Sidonie. Mmh. C'est amusant, ça. Et Madame Verdurin aimait beaucoup Odette, etc. Oui. Donc, je pense qu'il a été très impressionné par le monde... de lesbos qui intéressait beaucoup Baudelaire. Qu'est-ce que c'était que ces femmes qui se passaient des hommes, et il a repris en fait ce thème dans le fait que le grand mystère dans la recherche, c'est les relations féminines. Et il y a aussi dans cela le fait que sa mère lui parlait toujours de sa mère, la fameuse grand-mère, et qu'on lui parlait beaucoup de Madame de Sévigné, de l'amour que Madame de Sévigné avait pour sa fille, et que donc une sorte d'exemple mère-fille s'est imposé à lui entre femmes.
Il y a, alors, de ce point de vue-là, évidemment, il y a une scène qui vous intéresse beaucoup parce qu'elle rejoint deux des thèmes que vous abordez, c'est-à-dire en effet l'énigme des relations entre femmes, toute la jalousie que ça peut susciter.
Excusez-moi, c'est une jalousie tout simplement parce qu'il ne connaissait pas les femmes, voilà. Donc c'était un mystère pour lui. Et alors ?
Et qui rejoint la cruauté et la violence vis-à-vis des parents, c'est...
La scène de Mademoiselle Vinteuil.
La scène de Mademoiselle Vinteuil.
Oui, alors c'est très curieux. La scène de Mademoiselle Vinteuil, qui est avec une amie, il y a une photo du père, et c'est terrible. Elle crache sur la photo du père. Mais en fait, je ne sais pas du tout si ce personnage de Monsieur Vinteuil représente vraiment le père, parce qu'il est présenté dans la recherche à travers son amour exagéré pour sa fille. Et donc, on est porté à penser à l'amour exagéré de Madame Proust pour son fils Marcel, avec le bloc des hommes de l'autre côté. Et on se demande si ce personnage, dont Madame, la mère du narrateur, raconte la vie terrible à son fils, en lui disant « Pauvre Monsieur Vinteuil, comme il a souffert, lui qui aimait tant sa fille. » Et on se demande si ce personnage n'est pas en fait une femme, vous voyez, si c'est, comme toujours dans toute la recherche, un travestissement, encore une fois.
Vous insistez beaucoup sur le thème de l'importance de la perversion, chez Proust, dans la scène de Mademoiselle Vinteuil, s'ajoute en plus le fait qu'il y a un observateur, il y a le voyeurisme en plus.
Ah oui, mais ça c'est très intéressant, parce que chez Proust, voir le voyeurisme est une chose, une dimension essentielle, qu'il a d'ailleurs largué, si j'ose dire, sur le personnage de Charlus et de ses congénères. Mais en fait, pour Proust, c'est absolument comme chez Henry James, voir, c'est vivre de biais. Voir, ça n'est pas seulement voir et regarder, c'est posséder et c'est avoir une autre vie qu'on n'aura jamais. C'est pour ça qu'il a admirablement regardé à la fois les gens du monde, les nobles, les domestiques, les paysans, les garçons, les filles. Enfin, pour lui, voir, c'est prendre. Voilà.
Je voudrais qu'on revienne à quelque chose qu'on a vaguement évoqué tout à l'heure, qui est le personnage de la grand-mère. Parce que quand je vous le disais, c'est une vision personnelle de Proust, dans la chapelle latérale, vous m'avez dit, ah oui, mais tout est dans les textes. Oui, d'accord, tout est dans les textes, mais enfin, oui. Vous choisissez un angle. Vous n'avez pas choisi, par exemple, le côté balzacien de Proust, la peinture du Faubourg Saint-Honoré, vous n'avez pas...
Ah ben, c'est pas, ça ne va pas dans Proust et l'obscur.
Non, vous avez bien choisi un angle.
Oui, j'ai pris un angle.
Et même, vous n'avez pas choisi le comique chez Proust. Il y a des passages qui sont absolument hilarants.
Mais moi, j'adore le comique chez Proust.
On rit énorme. Moi, j'ai souvent dit, mais quel est le livre qui me fait le plus rire? La recherche du temps perdu. Alors, les gens ouvrent de grands yeux.
Si.
Mais... Donc, vous avez choisi un homme qui est Proust, Proust et l'obscur. Et alors, là, il y a le personnage de la grand-mère qui échappe complètement. Et vous dites que les seules pages les seules pages de réelle tendresse sont celles qui sont consacrées à la grand-mère, qui est en partie la mère, d'ailleurs, comme vous l'avez dit.
En partie.
Oui, en partie.
C'est la mère idéale. Voilà. Alors, ce qui est magnifique... c'est la scène de la mort de la grand-mère où tout le monde se presse pour venir à son chevet. Et alors, Proust démolit tous les gens qui viennent, parce que où ils viennent, parce qu'ils ont l'habitude, où ils viennent, parce que ils veulent montrer à quel point ils sont grands, le duc de Guermantes, par exemple, à quel point ils sont bons de venir au chevet d'une malade, etc. Donc, il démolit tout. Et pendant ce temps, la grand-mère reste dans sa véritable et authentique souffrance. C'est une des scènes les plus extraordinaires. Avec son petit-fils comme allié qui la soigne. Et c'est une scène bouleversante. Mais il y a aussi un article que Proust avait écrit sur la mort d'une grand-mère qui était la grand-mère d'un de ses amis, Robert de Flair. Et alors là, c'est vraiment superbe parce que il explique qu'il n'y avait que cet amour était plus fort que la mort, qu'un amour entre d'une telle compréhension entre une grand-mère et un enfant. Ils n'avaient absolument pas besoin de se parler. Ils savaient chacun ce que pensait l'autre. C'est vraiment absolument magnifique. Et en plus, il y a toutes les scènes où la grand-mère va avec le petit-fils à Cabourg et où elle lui dit, ils ont deux chambres à l'hôtel contingente, hein. Enfin, comment est-ce qu'on dit, adjacente.
Voisine.
Et la grand-mère lui dit, si tu as besoin de quelque chose, tu tapes à la cloison. Et ça, c'est merveilleux parce que il y a comme un langage qui perce les murs entre les deux, c'est sublime. Les passages sur la cloison de l'hôtel à Cabourg.
Je défie quiconque de lire ces passages sur la cloison à Cabourg sans pleurer, parce que ça se termine par... Et s'il existe... Enfin, Je ne connais pas Proust par cœur, mais s'il existe un au-delà, souhaite qu'entendre qu'une chose, c'est ma grand-mère me disant « Sois tranquille, petite souris, et frappez les trois
coups,
etc. »
Ah oui, c'est merveilleux.
Ben, on pleure comme un veau quand on lit ça.
Oui. Et si vous voulez, en fait, cette grand-mère, c'est la femme idéale. Alors, dégrader le personnage admirable de la grand-mère, mais il est relayé dans la vie de Proust par Céleste.
Ah oui.
Parce que Céleste, qui était cette, je sais comment l'appeler, enfin cette compagne intellectuelle des derniers jours, enfin pas une compagne, mais enfin une c'est pas non plus une femme de chambre, enfin je ne sais pas.
Bon, c'est d'abord la bonne, c'est d'abord une femme de chambre.
Oui. Je ne sais pas.
Mais elle veille maternellement sur...
Voilà, c'est un mélange de mère, de bonne, de grand-mère, de confesseur. Il lui racontait beaucoup de choses. Céleste est un personnage absolument extraordinaire. Et voilà, enfin, au fond, ce qu'il voulait, c'est ne pas être jugé. Voilà. Les deux grands mouvements de Proust, c'est primo la culpabilité, et ensuite ne pas vouloir être jugé.
Ah, vous cherchez, voilà.
Ah, ouf.
Ouf.
Voilà. Oh, c'est magnifique. Alors, c'est parmi ses plus belles phrases ou ses seules phrases sur l'amour. C'est la grand-mère, donc, Madame de Rosière est morte, la grand-mère de l'ami Robert de Flers. Comment deux êtres si entièrement correspondants, que rien n'existait dans l'un, qui ne trouva dans l'autre sa raison d'être, son but, sa satisfaction, son explication, son tendre commentaire, deux êtres qui semblaient la traduction l'un de l'autre. Ça, c'est vraiment une phrase merveilleuse. Deux êtres qui semblaient la traduction l'un de l'autre, bien que chacun d'eux fût un original. Ces deux êtres n'auraient fait que se rencontrer un instant, par hasard, dans l'infini des temps, où ils ne seront plus rien l'un à l'autre, rien de plus particulier, qu'ils ne sont à des milliards d'autres êtres. Faut-il vraiment le penser ? Et Proust conclut quelques lignes plus loin, « Rien ne dure, pas même la mort. »
Alors ça, ces passages-là, ils sont quand même en contradiction absolue avec l'ensemble de vos démonstrations. Enfin, vous avez le mérite de les faire figurer. Voilà. Et puisque vous écrivez par exemple, on pourrait d'ailleurs dire que toute la recherche est basée sur une volonté d'obscurité salvatrice,
oui.
Le titre, et une restriction mentale défensive qui se confondent avec le désir de posséder une vie à soi. Donc, une vie à soi et pas une vie partagée, pas une...
Oui, mais on peut avoir une vie à soi avec une grand-mère idéalisée, morte, je vous ferai remarquer. Oui. Enfin, c'est comme ça. Mais dans la recherche, elle est bien vivante. Ça n'est pas son monde. Voilà. Mais je pense que les parents étaient un couple, absolument, oui. Hein, forcément.
Avant de remercier Diane de Margerie, j'ai pris un plaisir infini à lire ce livre, que je le trouve très stimulant intellectuellement, que j'ai lu beaucoup de choses sur Proust, mais que là, le regard est un peu nouveau. Merci beaucoup, Diane de Margerie. Merci beaucoup.